Nous avons mis des bibliothèques entre la nature et nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne regarde le ciel, la voûte étoilée, plus personne ne se met à quatre pattes dans un jardin pour regarder un brin d'herbe et le mouvement de ce brin d'herbe. C'est fini, on ne sait plus faire ça. Donc on demande aux livres qu'ils nous disent la nature.
CO2, mon amour.
Les abeilles, elles nous disent, faisons l'économie du livre. Regardez le soleil directement, sachez regarder le crépuscule et l'aurore, sachez mesurer les effets de la rosée dans un jardin. Les abeilles, elles obéissent aux astres, elles obéissent au ciel, elles obéissent au cosmos.
Avec Denis Chessou.
Elles sont des fragments du cosmos, nous aussi, mais on ne le sait pas.
Sur France Inter.
Avec donc CO2 Mon Amour, une émission qui véritablement rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Aujourd'hui donc avec ce thème des abeilles que l'on affectionne tous, on a entendu Michel Onfray, qui devrait être invité prochainement, enfin on va dire d'ici quelques semaines dans cette émission. Il y a des choses intéressantes aussi à raconter sur l'environnement. À la technique, Stéphane Boja et Théo Gomard, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah, on va commencer par un autre animal, tenez. Depuis Alfred de Vigny, c'est vrai qu'on s'était habitué à entendre le son du cor le soir au fond des bois. D'ailleurs, par les belles nuits de lune d'automne, en Sologne, en Chartreuse ou à Rambouillet, les foules se pressent pour entendre bramer le mâle en rut et se donner le grand frisson préhistorique, un bel appel rauque, la vapeur aux lèvres du dit cor amoureux. Mais d'autres poètes sont là pour nous rappeler que la chasse est aussi un loisir de mort et qu'il est idiot d'aller se courir pour se geler dans le noir de la forêt quand le beau mâle en question peut être simplement dans votre jardin, oui, servi, comme on dit, sur un plateau. Je m'explique. L'image a fait le tour des réseaux sociaux et près de 300 000 signatures aujourd'hui. C'était le 21 octobre dans l'Oise, à Lacroix-Saint-Ouen, à l'orée de la forêt de Compiègne. Donc dans la jungle, terrible jungle des jolis jardins de nos banlieues. Eh ben, le cerf, il est mort. Le maître d'équipage, Alain Drac, fils de la baronne Monique de Rothschild, se divertit avec un bel équipage, donc, en chassant à court une des 400 chasses de France. Et puis, le cerf, vous savez ce que c'est, hein. Il est pas forcément très joueur, il est épuisé, et puis, voilà. Et comme ces messieurs, va se réfugier dans un jardin. Et le chasseur, n'entendant que son courage, enjambe le portail de la propriété privée. Lui donne des coups de fouet, méthode personnelle, je pense, pour ranimer la bête. Vous voyez, une espèce de défibrillateur, sans doute. Et il va nous le finir en deux coups de fusil, hein, parce qu'on a quand même sa dignité. Alors, la chasse à court, 3000 bêtes tuées, chaque année en France, et 30 millions, donc pour la chasse tout court, 30 millions d'amis, évidemment. Mais là, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu photo, il y a eu vidéo. Et pour une fois, L214 n'y est pour rien. Mais en fait, on n'avait pas compris. C'était pour rendre hommage à Bambi. Bambi qui, revu et corrigé par Walt Disney, a eu 75 ans cette semaine. Alors évidemment, s'il existe des foules toujours disponibles pour hurler à la mort à la porte des tribunaux, il en est d'autres que le carnage permanent offert par l'actualité ne fait pas jouir. Et ces gens-là méritent aussi un peu qu'on les entende. Et allez, un peu de tendresse, bordel, quand même, dans ce monde de brutes. Et c'est donc pas la peine d'en rajouter. Alors écoutez le brame du cerf. Oui, le flinguer tel un hobereau dans le jardin d'un manant de l'Oise, on va dire non. Et puisque donc ces gens-là s'intéressent à ce prince des forêts, tâchez de faire la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Il me semble que vous serez un petit peu plus utile. Allez, les abeilles, donc on va zonzonner dans votre magazine de nature et d'environnement préféré. Donc je vous le disais avec Claire Beauvais qui est vétérinaire apicole, on va voir ce que c'est. Et Eric Tournoret, donc photographe, apiculteur lui-même aussi, qui vient de sortir un formidable livre après sa route des abeilles. Cher Eric Tournoret, c'est le génie des abeilles.
Oui, tout à fait, Denis.
Et alors là, l'idée c'était quoi donc?
Alors l'idée c'était de mettre de vulgariser les dernières découvertes scientifiques, ouais. Parce que c'est vrai que depuis 10 ans, il y a eu énormément de découvertes au niveau des abeilles, au niveau de l'intelligence de cet organisme collectif, et de réussir à le mettre en image pour renouveler complètement l'image que l'on a des abeilles.
Alors, je sais qu'on est à la radio, mais c'est vrai que vos images sont assez incroyables, on va pouvoir donc y revenir. Et puis, dans une actualité qui passe toujours un petit peu à côté des radars, je vais vous emmener tout de suite dans la région narbonnaise. On va rejoindre André Bory, qui est le président de l'association environnementale donc de la région narbonnaise. Alors son association s'appelle Rubressus. Directeur de recherche honoraire à l'INRA. On est dans les faubourgs de Narbonne, donc sur le site de Malvézy. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un projet dont en fait vous ne voulez pas. Bonjour à vous André Bory. Vous êtes donc ce projet s'appelle TDN Areva. Donc expliquez-nous, c'est une unité de traitement thermique des déchets nitratés.
Bonjour. C'est un énorme projet puisqu'il consiste à retraiter les déchets stockés depuis le début de la filière nucléaire française, c'est-à-dire les années 60. Tous les déchets de purification d'uranium ont été stockés sur le site d'Areva Malvesi-Narbonne, soit sous forme solide, soit sous forme liquide, dans des bassins notamment. Et aujourd'hui, il y a un projet de retraitement des stocks d'effluents présents dans les bassins par un projet dit TDN, traitement des nitrates.
Alors c'est là où vous vous inquiétez, c'est-à-dire qu'en même temps on peut se dire bon, bah, c'est pas une mauvaise chose que de vouloir retraiter ces fameux déchets, mais votre inquiétude elle est où?
Alors l'inquiétude vient d'abord de la nature des effluents. Ce sont des effluents riches en nitrates, mais aussi en éléments radioactifs. Et notre inquiétude vient bien sûr du procédé lui-même de traitement, qui va être un four à pyrolyse, qui va brûler les effluents pour détruire par voie thermique les nitrates, et qui va émettre des quantités considérables de volume de gaz nocif, contenant des oxydes d'azote, des composés volatiles comme du benzène, des phtalates, perturbateurs endocriniens, ou encore de la radioactivité, et voire aussi des particules ayant fixé les éléments radioactifs.
Alors on imagine bien que les promoteurs du projet vont vous dire « mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle et il n'y aura pas de rejets dans l'atmosphère ou dans l'eau ».
Les rejets sont déjà soulignés par Areva dans l'enquête publique. Ils ont été chiffrés, quantifiés, et c'est sur ces bases-là, sur tous les chiffres qui ont été publiés, que nous avons montré que les rejets de l'installation TDN seront supérieurs à ceux d'un incinérateur, traitant les ordures ménagères d'une ville de 200 000 habitants, par exemple. Mmh. Donc ce sont des émissions atmosphériques et une pollution atmosphérique considérable.
Combien de personnes se mobilisent aujourd'hui donc, au sein de l'association? Et alors, quelle est la suite? Parce qu'on imagine bien qu'il y a eu enquête d'utilité publique, qu'il y a évidemment une décision du préfet.
Alors, la mobilisation est forte depuis déjà presque un an, hein, puisque l'enquête publique s'est déroulée en septembre dernier. Et depuis, il y a eu mobilisation, une pétition réunissant plus de 10 000 signatures et des manifestations qui ont réuni plusieurs milliers de personnes. Dimanche 5 novembre, il y a un nouveau rassemblement au centre-ville de Narbonne à ce sujet. Il y a plusieurs associations qui sont réunis autour des familles papillons qui organisent le rassemblement, dont Rubrésus, dont le collectif Covidem, dont les autres associations narbonnaises.
Alors, est-ce qu'il y a une solution alternative? Qu'est-ce qu'on peut proposer?
Il y a bien sûr d'autres solutions. Le préfet a émis des doutes sur ce projet et a demandé à Areva de justifier la solution proposée TDN. Et Areva a soumis un rapport présentant les études réalisées depuis ces dernières années sur d'autres alternatives. Il existe un procédé parfaitement industrialisé, déjà opéré par Areva sur le site pour extraire le nitrate et non pas le détruire. Il s'agit d'extraire par un solvant le nitrate. Ça peut être fait pour le nitrate d'uranyl, c'est ce qui est fait aujourd'hui sur le site, comme pour le nitrate présent dans les effluents, c'est ce qui pourrait être réalisé. L'intérêt de cette voie d'extraction, c'est qu'elle produirait moins d'oxyde d'azote, elle ne produirait plus de composés volatiles issus de la combustion du charbon et minimiserait aussi les émissions de matières radioactives.
Alors pourquoi ça ne se fait pas?
Il y a probablement d'autres intérêts qu'on ne connaît pas sur le dossier qui font que le projet TDN, qui est un procédé américain appartenant à la société Studsvik, société suédoise associée au groupe EDF pour les aspects nucléaires, et on voit qu'il y a un intérêt global de la filière nucléaire à plébisciter ce projet, mais il n'y a aucune raison technique à le proposer.
Et alors donc la suite des opérations, c'est le préfet qui doit rendre un avis quand?
Le préfet a déjà reporté à trois reprises son avis. Il devait être déjà donné en début d'année, devant la mobilisation des associations, des élus aussi. Tous les élus départementaux, régionaux, ont demandé un moratoire. Donc le préfet a suspendu sa décision et récemment a nommé deux experts pour étudier le dossier, vu les lacunes que le dossier arriva à présenter. Malheureusement, les expertises qu'il a commanditées s'avère catastrophique puisque l'une des expertises consacrées au, à l'aspect chimique révèle de grossières erreurs de la part de l'expert qui décrédibilise totalement son expertise. Et donc on voit mal comment le préfet pourrait s'appuyer sur ces dernières expertises pour autoriser un projet.
Voilà, donc on est très très loin de l'inspiration de Charles Trenet. Il y a de la joie, il y a de la joie et du nitrate. Bonjour, bonjour les hirondelles, pas du tout. Donc, petit éclairage pour cette association sur place. Et puis nous, on va s'intéresser aux abeilles. Tenez, Souchon.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime.
Pardon, et aussi donc Action, Alain Souchon, pardon, donc choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Ah, écoutez, cette voix, vous la connaissez.
Pour faire une prairie, dit la poétesse Emily Dickinson, pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille. Un trèfle et une abeille, et de la rêverie. La rêverie seule suffira, si les abeilles sont rares. La rêverie seule nous suffira, mais elle ne suffira pas aux prairies. Ni aux fleurs, aux prairies, aux fleurs, aux arbres à fleurs, il faut des abeilles. Depuis très longtemps, bien avant l'émergence des premiers êtres humains, les abeilles et les plantes à fleurs avaient commencé à tisser des liens étroits, des symbioses. Les fleurs nourrissaient les abeilles, et les abeilles pollinisaient les plantes à fleurs, participant ainsi à leur extraordinaire expansion et diversification à travers notre planète. La vénérable abeille aïeule, à laquelle nous devons probablement la plupart de nos fleurs et de nos fruits, disait Maeterlinck il y a un siècle dans son magnifique livre « La vie des abeilles ».
À Jean-Claude Amezen, dont le talent pédagogique, la force poétique et la rigueur scientifique ont été pour nous une formidable source d'inspiration, et aussi à Maurice Maeterlinck, eh bien, c'est donc la dédicace sur ce livre, hein, Le génie des abeilles, que vous avez donc photographié, vous, Éric Tourneret, donc aux éditions Ozoni. Vous nous aviez déjà régalé avec les routes du miel, et là, on va pouvoir plonger, ouais, à la radio, comme ça, voilà, comme aussi dans les Géorgiques de Virgile, qui a quand même consacré, me semble-t-il, un livre entier, donc à l'apiculture, et donc avec cet ouvrage. Alors, peut-être tout de suite, on va être dans une actualité, parce que vous êtes aussi, vous en Ardèche, apiculteur, climat et abeilles.
Ah justement, actuellement, on est vraiment touché par les apiculteurs, par le réchauffement climatique, et c'est vrai que, par exemple, en Corse, ça fait 2 années de sécheresse consécutive, c'est vraiment terrible. J'ai un ami apiculteur en Corse, il a réussi à faire 700 kilos de miel avec 600 ruches.
Ouais, c'est rien,
c'est rien du tout.
On va dire qu'une moyenne dans les bonnes années, c'est entre 30 et 50 kilos peut-être.
Oui, on va dire 20 à 30 par ruche, selon les façons de travailler. Mais c'est vrai que c'est très préoccupant. Et là, en Ardèche, ça fait des mois qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'eau, et on est normalement en octobre où les pluies sont arrivées. Donc c'est vrai que ça touche et impacte directement le garde-manger des abeilles.
Voilà. Alors Claire Beauvais, donc vous êtes vétérinaire, vous, apicole. Vous avez été donc diplômé inter-école d'apiculture pathologie apicole à Nantes. Hein, donc ça avait été créé, donc c'est une spécialisation qui avait été créée par Monique Lostis, qui est professeure de parasitologie. Vous intéressez, donc vous êtes au départ, vous êtes vétérinaire. Et alors, vous aussi, vous intéressez donc aux différentes causes de mortalité. Bien sûr, néonicotinoïdes, pesticides, on le sait depuis longtemps. Mais justement, le climat est très important.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, le changement climatique a un fort impact sur la sécrétion de nectar par les plantes. Et ce nectar qui est l'alimentation des abeilles, finalement, il manque très souvent. Là, on a vécu plusieurs années successivement avec des conditions météo qui n'étaient pas du tout favorables.
Un printemps bien pourri aussi. Donc
voilà, alors on a souvent une saison qui commence bien au mois d'avril, avec un printemps qui peut être précoce, avec des floraisons qui sont assez diversifiées, donc des colonies qui commencent par bien se développer, et puis un coup de froid, de la pluie qu'on n'attendait pas, et donc des végétaux qui sécrètent pas bien leur nectar, et puis de la sécheresse dans le sud de la France, beaucoup de sécheresse, de vent, et ça c'est pas du tout évidemment favorable à la sécrétion de nectar par les plantes, donc les colonies en souffrent beaucoup.
Alors on verra bien sûr aussi les autres causes, on parlera du varroa, etc. Aujourd'hui on va se faire un petit point, on va dire un peu sanitaire aussi sur le monde des abeilles. Alors Éric Tourneret, vous le savez, hein, si vous voyez, vous les enfants, des rayures sur le corps d'un insecte volant non identifié, c'est pas un code barre, non, ça peut être effectivement une abeille. Apicula, hein, je crois que c'est son petit nom latin, c'est ça, ce que j'ai vu passer.
Donc, Apis mellifera.
Apis mellifera aussi, voilà. Mais alors là, maintenant, j'ouvre la ruche. Voilà, avec vous, qu'est-ce que l'on voit? Comment ça se passe?
Alors on voit d'abord une multitude que l'on trouve informe. Il faut savoir que en pleine saison, une ruche d'abeilles, c'est 50 000 à 80 000 abeilles, avec une seule reine féconde, 500 à 1000 mâles qui sont là pour la reproduction, et ces abeilles qui ont l'air identiques.
500 à 1000 pour une abeille, pas pour une reine.
Pour une reine, dans la ruche. Hein. Et en soi, elles sont en fin de compte pratiquement toutes différentes. Mm-hmm. Il y a différentes lignées, donc qui viennent d'une seule reine, mais avec des mâles différents. Donc il peut y avoir une quinzaine de lignées de demi-sœurs. Et après, il y a des vraies sœurs. Elles sont issues de la même reine et du même frère. Mais si on va beaucoup plus loin, leurs caractéristiques et leur caractère va va aussi être différent. Il peut être complètement différent, même si ce sont des jumeaux identiques. Mm-hmm. Ça va dépendre de la température du couvage, en fin de compte, de ces larves qui grandissent. Et on va avoir des abeilles qui sont des super sœurs, mais certaines vont être des folles de travail et d'autres vont plutôt rester dans la ruche et viendront en renfort au moment des grandes mielées.
Alors ça, on va en parler un peu, on va dire des spécialisations, savoir comment ça se passe, pourquoi certaines sont gardiennes, d'autres sont pollinisatrices, etc. On revient sur la fécondation de la reine. Donc, parce que, en fait, vous avez des photos extraordinaires dans cet ouvrage. Je le rappelle, le génie des abeilles. Vous avez monté un échafaudage à 8 mètres du sol. Je ne sais pas combien d'heures vous avez attendu pour essayer d'attraper, on va dire, au vol cette rencontre. Alors, on voit plein de faux bourdons qui sont donc les mâles qui lui courent après. Donc, après, il y a quand même cette fécondation. Et ça se passe comment? Parce que, ensuite, est-ce qu'elle va pouvoir ressortir, la reine, ou bien une fois que cette opération a eu lieu, si j'ose dire, elle reste au fond de la ruche?
Alors, au moment de la fécondation, c'est vrai que c'est un moment très, très magique en soi. On est un peu dans la guerre des étoiles, où on a 15 à 20 faux bourdons comme ça, qui sont en formation et qui suivent à très grande vitesse cette reine qui vole en zigzag. Et c'est vraiment un moment magique. Et la reine va être fécondée par une dizaine ou une quinzaine de mâles comme ça, en vol. Puis elle va rentrer dans la ruche. Et là, au bout de quelques jours, elle va commencer à pondre. Donc la reine, c'est pas vraiment une reine, c'est plutôt une mère. Elle va vraiment pondre tout au long de sa vie. Et elle ressortira de la ruche seulement un seul moment, c'est quand, au printemps, la colonie qui est un organisme en soi, va décider de se diviser. Et la reine, la vieille reine, va partir avec la moitié de la population pour fonder une nouvelle colonie. Et là, c'est vraiment le dynamisme de l'espèce qui est basé sur l'essaimage, sur la division d'un organisme collectif.
Alors vous avez pu, vous aussi, enregistrer ces fameuses reines. Alors là, racontez-nous, Éric Tourneret, où sommes-nous ?
À Montélimar.
Oui, d'accord. On reconnaît tout de suite le son Montélimar, bien évidemment. Voilà, donc on est dans la Drôme. Au-delà de ça, c'est-à-dire que là, très précisément, vous avez le petit coup de trompette que l'on entend. Qu'est-ce que c'est bien ça? C'est une reine, ça?
C'est une reine, oui. Ouais. C'est une reine vierge qui, en fin de compte, juste après son éclosion, elle sort de cette cellule royale, va lancer cet appel et ses sœurs qui lui répondent. Et après, s'en suit un régicide, la plus rapide, Annette, va tuer ses sœurs.
Et là, ce qu'on appelle une spermathèque, c'est-à-dire qu'elle va garder tous ses spermes, mais au fur et à mesure, parce que sa durée de vie, c'est quoi? C'est 2 ans, 5 ans, à peu près?
Alors, justement, actuellement, il y a pas mal de problèmes aussi avec la durée de vie des reines. C'est un problème. Souvent, on pense par rapport à l'infertilité des mâles, qui sont touchés, justement, par les perturbateurs endocriniens directement. Donc, les reines ont une durée de vie beaucoup plus courte.
Quand on dit perturbateurs endocriniens, on pense quand même pesticides.
Également.
Bah oui.
Oui, ça, tout à fait.
Parce qu'il y a quand même pas mal qui sont aussi des perturbateurs endocriniens.
Et donc leur durée de vie, qui est de 4 à 5 ans, se réduit d'année en année.
Bon, alors Claire Beauvais, justement, voyons aussi un peu l'aspect sanitaire. Déjà, effectivement, un vétérinaire apicole, les gens ne savent pas forcément que c'est une spécialisation. Donc, après tout, les abeilles, c'est un cheptel comme un autre. Et c'est aussi votre rôle d'assurer, vous, en tant que vétérinaire, la qualité sanitaire aussi de ce pays à travers les animaux.
Oui, alors là, on parle d'une abeille qui s'appelle Apis mellifera, qu'on appelle l'abeille domestique. Domestique, on l'élève dans des ruches. Donc les apiculteurs sont finalement des éleveurs d'abeilles. Et le vétérinaire, son travail, c'est d'intervenir dans les élevages, donc dans des élevages de mammifères, dans des élevages de volailles, mais également dans des élevages d'abeilles. D'une part parce que son métier, c'est de se préoccuper de la santé animale, et puis se préoccuper de la qualité des denrées alimentaires d'origine animale. Mmh. Et c'est le cas du miel.
On va rappeler qu'on a quand même 65 000 à peu près apiculteurs en France. On en a 50 000 qui sont déclarés, simplement, mais on sait qu'il y en a plus. Et quand même, vous avez 4 000, alors est-ce qu'on va les considérer comme professionnels parce qu'ils tirent des revenus de cela. 4 000 professionnels, donc on va dire sur les 65 000, 2000, possède 75% des colonies.
Voilà, il y a 1 300 000 ruches en France et effectivement, il y a quasiment 1 million de ruches qui sont possédées par des apiculteurs qui ont plus de 50 ruches. On considère que quand on a plus de 50 ruches, on tire un bénéfice de l'élevage des abeilles et donc on peut considérer qu'on est apiculteur professionnel.
Et donc, votre travail, vous, lorsque vous arrivez sur les ruches
Alors, pourquoi des vétérinaires apicoles, comme je disais, hein, pour la qualité des denrées alimentaires en fait, tout vétérinaire a pendant son cursus un enseignement en apiculture. Et puis, certains d'entre nous ont choisi de se spécialiser. Et ce diplôme dont vous parliez tout à l'heure, en fait, a été créé en 2006 suite à l'observation de nombreuses mortalités de colonies d'abeilles sur tout le territoire et qui a correspondu en fait à deux choses. L'utilisation de pesticides, principalement les néonicotinoïdes.
Le gaucho et le régent
Voilà, gaucho et régent qui est du fipronil. Ce fameux pesticide qu'on a retrouvé dans les œufs cet été.
Ah oui, le fameux fipronil, oui, c'est vrai.
Voilà.
Sur les poupoules.
Voilà, exactement. Voilà, donc ces pesticides qui ont été largement utilisés depuis les années 90. Et puis, on a aussi un problème avec un parasite qui s'appelle varroa, qui est un acarien, qui est un peu l'équivalent de la tique chez l'homme.
Alors là, c'est quand même, il se goinfre des larves d'abeilles, il les vide de leur sang. Il est arrivé quoi en 1982, celui-là c'est ce
que Alors, il est arrivé en France en 1982.
Il a pris son billet d'avion, comment il a fait?
Non, c'est un parasite, en fait, qui existe depuis des millénaires, qui est un parasite de l'abeille asiatique, Apis serrana. Et donc, ces deux espèces ont coévolué, donc l'abeille asiatique et le varroa, pendant des millénaires. Et puis, le parasite, son objectif, c'est de ne pas tuer son hôte. Parce que s'il tue son hôte, il finit par mourir. Donc, il y a une évolution qui s'est faite entre ces deux espèces d'abeilles. Et on parlait tout à l'heure de recherche de la productivité. On s'est rendu compte que Apis mellifera, donc notre abeille occidentale, était plus productive que l'abeille asiatique. Donc on a importé des colonies en Asie. Et là, ce petit varroa a franchi la barrière d'espèce et passé sur l'abeille occidentale, voilà. Apis mellifera. Et de fil en aiguille, ce varroa est venu envahir le monde entier. Il y a quelques zones où on n'en trouve pas. L'Australie, l'île d'Ouessant en France, mais il n'est pas dit qu'il ne va pas arriver d'ici quelques temps sur cette île-là. Il est arrivé récemment à La Réunion, donc c'est un gros problème pour les apiculteurs réunionnais qui voient leur colonie mourir. Vraiment de manière importante.
Alors vous évoquez Ouessant, donc ça veut dire aussi que ça nous renvoie donc à notre abeille noire. Ça c'est tout à fait intéressant. Et on a en ligne Yves-Élie Laurent, qui est donc apiculteur aussi, qui est président de l'association L'Arbre aux Abeilles. Nous sommes dans ce merveilleux département de Lozère, donc on est au pied du col du col du Finiel, donc on est au Mont Lozère. On est au pont de Montvert, donc bonjour à vous Yves-Élie. Et alors racontez-nous effectivement ce que vous faites avec ce conservatoire aujourd'hui, donc des abeilles noires.
Bonjour. Alors, l'origine de l'abeille noire est tout simplement européenne, puisqu'elle remonte à l'époque des grandes glaciations du Quaternaire, les dernières grandes glaciations, c'est-à-dire entre moins 1 million d'années et moins 20 000 ans. Il faisait à l'époque très froid, c'était une période de refroidissement climatique très sévère, et donc les populations d'insectes, d'animaux en général et même humaines, et d'insectes ont été chassées depuis le nord de l'Europe vers le sud. Et au final, se sont retrouvés confinés dans le sud de la France, en général, coincés entre la barrière de glace des Alpes, notre barrière de glace des Pyrénées et la mer. Les conditions de vie étaient très très dures à l'époque, très peu de fleurs, saison estivale de floraison très courte, beaucoup de prédateurs intéressés par le miel, les ours, les êtres humains, et j'en passe, les martres et compagnie. Et les abeilles ont eu beaucoup de mal à survivre à cet ensemble de ce qu'on appelle de filtres de sélection naturelle. Celles qui ont survécu furent les ancêtres des abeilles noires. C'est-à-dire qu'à partir de là, les diverses souches européennes s'est formée sur le tas, en fait, une population d'abeilles particulièrement résistante, particulièrement réactive, voire combative, et particulièrement économe en fonctionnement, qui pouvait passer l'hiver avec très peu de miel, puisqu'il y avait très peu de ressources florales.
Alors pourquoi la protéger aujourd'hui, cette Apis mellifera, donc cette fameuse abeille noire, de quoi est-elle menacée?
Eh bien, elle est menacée tout simplement de disparition, parce que du fait de l'évolution des pratiques agricoles en général et apicoles en particulier, on a été soumis à une modification des pratiques qui ont vu en fait l'importation de souches d'abeilles étrangères, alors qui ont métissé nos populations d'abeilles locales, qui les ont altérées sur le plan du patrimoine génétique, et aussi qui ont amené avec elles, ça c'est très grave, une maladie via un acarien qui s'appelle le varroa, oui, et qui a littéralement décimé les populations d'abeilles noires vivant soit à l'état sauvage dans nos milieux européens, soit de manière fort paisible dans des ruchers traditionnels où l'homme, depuis des siècles et des millénaires, vivait de manière sereine avec les colonies d'abeilles noires sans exercer de pression d'élevage.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu à la fois donc les pratiques agricoles que l'on connaît, on en a déjà parlé, et aussi donc des pratiques apicoles. C'est-à-dire qu'effectivement, à force de vouloir peut-être croiser, d'hybrider, est-ce que c'est le bon mot
C'est un des aspects de l'hybridation, mais en général, le fond du problème est la course à une productivité prétendue intéressante, c'est-à-dire à court terme, à augmenter la productivité par tous les moyens, que ce soit la sélection des populations, que ce soit la stimulation avec des sirops de sucre, que ce soit l'importation de souches d'abeilles étrangères. On continue aujourd'hui allègrement dans l'Hexagone et en Europe en général à importer des reines d'abeilles de l'autre bout du monde qui sont potentiellement porteuses de problèmes pathologiques très graves qui risquent de décimer nos populations.
Et donc pour vous, est-ce que l'on pourra espérer avoir davantage d'abeilles noires? Parce que si on a donc cette mondialisation apicole dans tous les sens, est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour elles de retrouver sa place?
Certainement, parce que il y a les apiculteurs d'une part, mais il y a l'ensemble des citoyens dans sa globalité qui sont conscients qu'il faut réactualiser les pratiques apicoles à la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire face à un challenge de sauvegarder la biodiversité, entre autres en matière d'abeilles, c'est-à-dire de sauver des populations d'abeilles particulièrement résistantes qui sont très intéressantes dans un contexte où l'abeille au niveau mondial est menacée. Ensuite, se pose la question du comment, et c'est là que intervient un projet auquel nous travaillons depuis une dizaine d'années ici, qui s'appelle la Vallée de l'abeille noire, en concertation avec les institutions et pas mal d'autres citoyens, car c'est une affaire globale où le citoyen lui-même joue un rôle éminent lorsqu'il choisit son miel dans un supermarché. Il a l'opportunité de choisir le miel en fonction aussi des pratiques agricoles et donc apicoles qui l'ont produit.
Yves-Eli Laurent, donc président de l'association L'Arbre aux abeilles au pont de Montvert. Petite réaction aussi de votre part, Éric Tournoré.
Oui, par rapport au varroa, on peut dire que c'est vraiment l'homme, hein, les apiculteurs, qui ont facilité la transmission de cet acarien. C'est vrai que, par exemple, au fin fond de l'Afrique, quand il y a qu'une apiculture très traditionnelle, il n'y a pas de varroa. Le varroa est aussi transmis par l'apiculture moderne transhumante.
Alors ça, vous le constatez aussi, Claire Beauvais, en tant que vétérinaire, donc.
Oui, mais enfin là, ce qui se passe en France, c'est que le varroa est présent partout, donc de toute façon, il se transmet au sein d'un rucher, entre les ruchers, et évidemment, à partir du moment où il y a une concentration de ruches, que ce soit en ville ou sur les zones de transhumance comme le plateau de Valensole avec les mielets de lavande, on a des échanges non seulement de parasites, mais de toutes sortes de maladies qui sont favorisées par cette concentration. Les importations de rennes, effectivement, il y a deux problèmes. Il y a d'une part ces rennes qui viennent avec leur cortège de maladies, de parasites. On a là qui nous pend au nez un prédateur qui s'appelle le petit coléoptère des ruches qui est arrivé en Italie en 2014.
En plus du frelon asiatique,
en plus
du champignon nosema, en plus de,
voilà,
du varroa.
En fait, les échanges internationaux favorisent la transmission de tous ces agents pathogènes qui finissent par envahir le monde entier. Il y a ce problème-là de transport d'agents pathogènes, mais il y a aussi le fait qu'en important. Moi, je me pose la question. Quand on importe des rennes qui sont élevées dans l'hémisphère sud, dans des biotopes bien particuliers, on les amène en France où elles ne rencontrent pas du tout les mêmes végétaux, les mêmes parcours agricoles, etc. Est-ce que ces rennes sont bien adaptées à leur environnement? D'où l'intérêt de ces conservatoires d'abeilles noires.
Parce qu'en fait, ils préservent les races rustiques.
C'est la préservation, ce qu'on fait aussi pour d'autres espèces animales. On peut préserver des races de vaches vaches rustiques, de brebis, voilà. Alors, il y a non seulement une réserve de biodiversité génétique, voilà, dans un contexte de changement climatique, c'est bien d'avoir une réserve de biodiversité génétique, on ne sait pas face à quoi on peut être amené, et puis aussi la qualité des produits du terroir, hein. Chaque race a ses qualités, ses caractéristiques qui nous permettent de faire du fromage.
Moi, je vous le dis, pour être abeille, il faut vraiment avoir une vraie vocation chevillée aux ailes.
Of thunder, wolves calling each other as the roses they cover in the black of the night. Passions extinguish in short whispered sentences, banished from memory is the thought of yesterday. Now I look past my shoulder for the face of my mother. Did I see her smiling, or was it all a dream? No, I seem to recall the perfume of roses, the day they all hiding, the dewdrops are frozen. Half full, half blind, half awake girl. Half full, half blind, half awake world. Half full, half blind, half awake girl. Sending messages, sweet perfume of love just under our noses. I won't hold my horses, just leave what's above. Sweet labor of love, just surrender to the other.
Half full, half blind, half awake girl.
Un groupe français, si, de musique soul, et donc ils ont été élevés à Rennes, pas sous une reine, hein, non. Mais on va revenir effectivement donc à nos reines, on parle des abeilles, donc sur France Inter, c'est Au-deux mon amour, avec Éric Tourneret et Claire Beauvais, vétérinaire. Cet ouvrage donc est vraiment superbe, hein, donc Le génie des abeilles aux éditions Ozoni. Et alors, moi je nais là, bon, donc il y a eu la fécondation, parfait, la reine repart tranquillement dans sa ruche, et moi je suis une petite abeille, et je suis déjà déterminé, c'est-à-dire que je vais être, je sais pas, alors je suis ouvrière, oui, mais est-ce que je vais être gardienne à l'entrée de la ruche? Est-ce que je vais aller poller? Est-ce que je vais ramasser du pollen? Comment ça se passe, ça?
Alors, en fin de compte, les abeilles, au moment de leur naissance, elles vont évoluer dans le temps par rapport à la transformation de leur organisme. En naissant, elles vont déjà faire un métier tout simple qui est de nettoyeuses. Elles vont nettoyer les cellules justement pour que la reine puisse pondre des œufs dans une cellule propre. Puis après, elles vont devenir nourrices. Elles vont s'occuper de leurs sœurs en leur amenant une bouillie de pollen et de miel. Par la suite, elles vont devenir magasinières. Elles vont décharger le nectar et le pollen ramené par leurs sœurs dans butineuses dans la ruche. Et par la suite, elles vont commencer à produire de la cire. Et elles vont être bâtisseuses, donc elles vont bâtir cette cire, justement, ces alvéoles parfaites. Par la suite,
donc elles vont faire tous les métiers.
Elles vont faire tous les métiers, jusqu'à devenir ventileuses et porteuses d'eau, exploratrices, butineuses. Et c'est assez extraordinaire, que chez les abeilles, les exploratrices, c'est elles qui font, en fin de compte, qui transmettre vraiment l'information dans la ruche. À travers la danse des abeilles, elles vont pouvoir indiquer à leur sœur une direction par rapport au soleil et une distance des fleurs. Et c'est elles également qui vont accompagner leur sœur vers ces fleurs, et en marquant au niveau olfactif ces zones mielifères.
Et donc ceci en combien de temps? 4 mois de vie, non?
Oh, beaucoup moins que ça. Hein. Au bout de 35 jours, l'été, les abeilles s'épuisent au vol. Ouais. C'est vrai que le miel, on pense au miel, mais le miel, c'est vraiment un carburant. C'est le carburant des abeilles qui est utilisé principalement pour le vol, mais aussi pour la création de température, parce que les abeilles sont pérennes. Elles passent l'hiver, elles se chauffent tout l'hiver, et ça, c'est extraordinaire.
Alors, Karl von Frisch, cet Autrichien qui était né en 1886, donc a mis en avant, lui aussi, cette fameuse danse des abeilles. Mais comme il y a quand même pas mal de nouveautés, quelles sont un peu les nouveautés scientifiques que nous avons et que vous nous présentez dans ce livre?
Alors, par rapport à la danse des abeilles, c'est vrai que Karl von Frisch a eu le prix Nobel pour justement sa théorie sur la danse en huit des abeilles qui indiquait vraiment une source de nourriture. Mais par la suite, on a pu poser des petits émetteurs sur le dos des abeilles et remarquer que les abeilles qui suivaient cette danse arrivaient à une certaine distance de leur but et commençaient à faire des vols en zigzag. Donc elles n'avaient pas une information complète. Puis Jürgen Totz, qui est co-auteur de ce livre.
De cet ouvrage avec Sylla de Saint-Pierre.
Tout à fait, avec Sylla de Saint-Pierre, qui a fait un texte magnifique, a vu que ces exploratrices allaient marquer au niveau olfactif les fleurs pour donner une autre direction pour attirer justement ces abeilles suiveuses qui suivaient ces danses. Et autrement, ces exploratrices aussi sont assez intéressantes parce que c'est des abeilles qui sont des butineuses aguerries, intrépides, et au niveau génétique, elles ont vraiment développé des hormones qui sont très proches de celles des athlètes de haut niveau, des hormones de risque.
Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter Laurent Chevalier, qui intervient régulièrement dans cette émission, qui est docteur. Et sur le miel, il regarde ça parce que c'est quelqu'un qui est diététicien et donc qui s'intéresse beaucoup évidemment aux aliments et aussi au miel.
Actuellement, on a du faux miel sur le marché, oui, qui est quasiment indétectable. Donc en fait, on va avoir un mélange de sucre qui va être coloré. Et ensuite, il peut même y avoir des arômes de miel qui sont ajoutés. Et l'astuce, entre guillemets, qu'ont eu les industriels ou certains importateurs, c'est de rajouter du pollen. Donc du coup, c'est quasiment indétectable. Alors comment on fait de façon très concrète? Eh bien, il faut comprendre que de toute façon, la production de miel par les abeilles n'est pas suffisante par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Et finalement, on va regarder l'étiquette. Et quand est mentionné sur l'étiquette hors Union européenne, ça peut être du miel qui vient d'Asie du Sud-Est et ça peut être du faux miel. C'est pas systématique, mais ça peut l'être. Et sur les étiquettes, certaines étiquettes, on voit indiquer Union européenne et hors Union européenne. Il faut absolument se méfier de ce type de miel. Il faut que l'origine du miel soit bien indiquée et l'idéal, c'est d'aller chez des apiculteurs. On en a d'excellents en France. Il faut absolument favoriser ce type de commerce.
Alors, on n'en veut pas à nos amis chinois, mais quand même, de temps en temps, du miel coupé à la flotte, on en a eu. Du miel avec des antibiotiques, alors vraiment, on en a eu aussi. C'est interdit, ça, en France, les antibiotiques?
Ah oui, l'usage des antibiotiques est formellement interdit en apiculture. Donc, c'est aussi notre rôle de vétérinaire de bien informer les apiculteurs qu'ils ne doivent pas lutter contre les maladies avec les antibiotiques.
Ouais.
Voilà. En plus, on est dans un contexte de problèmes d'antibiotiques résistance à l'échelle du monde entier.
Ouais.
Donc, surtout, il ne faut pas en rajouter dans les ruches. D'autant que on trouve déjà pas mal de choses dans une ruche, des résidus de tout ce que les abeilles ramènent lors de leur butinage, donc les pesticides qui sont contenus dans le nectar, le pollen. Et puis, ce que les apiculteurs mettent dans leurs ruches, et principalement pour lutter contre varroa, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure.
Alors, donc l'acarien, oui, qu'est-ce qu'on a comme solution?
Donc cet acarien qui entraîne vraiment des mortalités, c'est vraiment une grosse cause de mortalité des ruches.
Hein.
Il
ne
faut
vraiment pas
l'oublier. Hein. C'est comme si vous aviez une chauve-souris qui vous pompe le sang 24 heures sur 24 sur le dos.
Oui, mais attendez, vous n'allez pas dénigrer les chauves-souris, on a besoin des chauves-souris qui sont des insecticides naturels, les chauves-souris.
Oui.
Amis chauves-souris, ne prenez pas ne prenez pas mal.
Enfin bon, si ils vous pompaient le sang toute la journée,
oui,
vous ne diriez pas ça.
Oui.
Et qui, en plus, inoculent pas mal de virus. Voilà. Donc il faut absolument lutter contre ce varroa. Et il existe des médicaments, il existe des substances qui sont destinées à tuer ce varroa, donc à diminuer cette pression parasitaire dans les ruches. Et ces médicaments, bah évidemment, comme tout médicament, ils vont laisser des résidus dans la ruche. Ces résidus qui... alors, il faut savoir que pour tuer un acarien, on utilise un acaricide, mais qu'en général, les acaricides, ils ont des propriétés insecticides. Donc, l'abeille étant un insecte, elle risque de souffrir de la présence de ces résidus d'acaricides dans la ruche.
Donc ça les flingue et on a des voilà. traces dans le miel, inévitablement.
On a des traces dans les cires, on a des traces dans les miels. Et on sait que certains pesticides sont en plus des perturbateurs endocriniens. Les néonicotinoïdes, pour certains,
bon,
sont
donc
des
ça veut dire que si je choisis mon miel, j'ai peut-être intérêt à être loin d'une zone de culture. Alors, je ne vais même pas dire que grande culture, parce que si vous avez un mararaîcher qui...
Alors voilà, de toute façon, des résidus de pesticides, on en a dans tout ce qu'on ingère.
Bah, oui,
donc, voilà, ce qu'il faut... Alors, évidemment, quand on mange du bio, on en ingère moins.
Ah oui.
Mais, effectivement, le souci, c'est que...
A priori, on
n'en
ingère pas, quand même, dans le bio, a priori.
Il y a une contamination environnementale qui est telle que,
oui,
de toute façon, il y a des traces de pesticides partout. Voilà. Donc, il y a un problème d'effet synergique entre les molécules qu'on connaît pas très bien. Donc, plus on ingère...
L'effet cocktail.
Voilà, ce sont les effets cocktails.
Alors, Éric Tourneret, moi j'ai envie de revenir aussi sur les caméras thermiques. Ça, on le voit aussi très très bien dans votre ouvrage. On revient donc sur la science. Elles ont servi à quoi?
Alors... Il faut savoir que les abeilles sont aussi des chimistes. C'est vrai que c'est pratiquement le seul animal qui va produire son matériau de construction. Et c'est assez extraordinaire, cette cire. Mais elles connaissent les propriétés de la cire de façon extraordinaire. Normalement, quand elles construisent leurs alvéoles, elles les construisent de façon circulaire au début. Et les caméras thermiques ont permis de détecter comment c'est la transformation de ces cellules
au
circulaires.
Au départ, c'est un rond.
Oui, elles les construisent de façon circulaire.
Oui.
Puis après, justement, elles connaissent très bien cette cire et elles vont se mettre en grappe et elles vont montrer la température de la cire. Et naturellement, c'est une propriété physique de la cire, cette cire va s'étirer et prendre cette forme parfaite qu'est l'hexagone.
Ah, d'accord, donc c'est pas elle qui le fabrique au départ, c'est le réchauffement qui permet après donc à la cire,
voilà,
de devenir hexagone.
Hexagonale. Et on a, ouais, pu suivre justement cette transformation sur un rayon avec des caméras thermiques qui voyaient vraiment cette augmentation de la température de petits groupes d'abeilles qui faisaient cette transformation. C'est assez extraordinaire,
ouais,
parce que ça change totalement la vision que l'on avait des abeilles. Mais aussi au niveau chimique, les abeilles savent marquer les fleurs. Une fleur qui a été butinée, où il n'y a plus de nectar, les abeilles vont marquer cette fleur d'une odeur pour prévenir leur sœur. Si elle rencontre un danger, comme une araignée
Thomis. Ça, c'est assez récent comme découverte. Donc,
Oui, il y a beaucoup de petites découvertes qui font que ça devient très interactif. Elles vont marquer aussi s'il y a un danger, un signal stop sur les fleurs.
D'accord, donc la fameuse araignée aussi.
L'araignée Thomis, s'il y a une araignée Thomis qui s'est cachée dans une fleur pour justement attraper une abeille, cette fleur, si une abeille en survit, va être marquée d'un signal stop danger.
D'accord, c'est comme ça. Bah, tenez, moi, ça
avec des odeurs, donc ce sont vraiment des chimistes.
Je vous renvoie à l'atelier du Mont Petit Loup de demain, parce que il y a un ouvrage qui s'appelle « Abeilles et épères » pour les enfants à partir de 5 ans, que je vais présenter. Si nous allons du côté de Toulouse, à l'université Paul Sabatier et au CNRS, qu'est-ce que l'on découvre?
On découvre l'intelligence des abeilles. C'est vrai que Martin Gurfa travaille au CNRS depuis des années et il a réussi à mettre en évidence l'apprentissage individuel et la mémoire individuelle des abeilles. C'est vrai que c'est un minuscule cerveau qui est de la taille d'une tête d'épingle, et pourtant elles ont des capacités cognitives surprenantes, et Martin Gurfa les compare à celles de mammifères supérieurs.
Alors je me retourne maintenant vers notre vétérinaire, donc Claire Vauvais. Ce que l'on entend bien, c'est que bien évidemment, on le sait, pesticides, néonicotinoïdes, c'est pas exactement un baume de beauté, une crème de beauté pour les abeilles. Ça, ok. Varroa, on l'entend aussi, etc. Mais il y a quand même aussi des pratiques apicoles. C'est un peu ce qu'on croit. On l'a entendu d'ailleurs avec Yveli Laurent sur les rennes. On veut des rennes qui sont de plus en plus productives, mais tout ceci affaiblit aussi peut-être une colonie. Au-delà de l'alimentation qu'elle ne trouve pas.
Oui, oui, oui. Oui, il y a effectivement des pratiques apicoles qu'il faudrait voir disparaître. Mais je veux quand même préciser qu'en France, on a une très grande diversité de la qualité des apiculteurs. C'est-à-dire qu'on a des apiculteurs qui travaillent extrêmement bien et qui font des produits d'une très grande qualité, qui sélectionnent les lieux où ils posent leurs ruches pour avoir vraiment des miels de très grande qualité. Donc, on ne va pas jeter la pierre systématiquement. Mais on a aussi des personnes qui, sans doute par manque de formation, font un petit peu n'importe quoi. Et
il y a beaucoup d'amateurs, hein, soyons clairs. Il y a quand même beaucoup
Oui, il y a beaucoup d'amateurs. Alors, c'est amateurs, je préfère dire loisirs, mais il y a énormément de très bons apiculteurs parmi les apiculteurs de loisirs. Voilà, ceux qui ont de mauvaises pratiques, c'est en général des gens qui se forment pas bien et qui pensent être encore au siècle dernier, au moment où on était juste récolteur de miel. On posait une ruche et puis on avait juste à aller chercher le surplus de miel dans le grenier. Maintenant, l'apiculture, elle est beaucoup plus technique. Le fait de devoir traiter contre varroa, c'est vraiment très très important. Pas uniquement avec des médicaments. Quand on les utilise, il faut savoir bien les utiliser, à quel moment les utiliser. Comme en agriculture où on fait de l'agriculture raisonnée, il faut aussi demander aux apiculteurs de faire de l'apiculture raisonnée en utilisant les bonnes molécules au bon moment, en ayant une bonne technicité pour éviter que toutes ces molécules qu'on trouve partout dans l'environnement s'accumulent.
D'où votre rôle. Alors, on constate aujourd'hui, je crois que je ne sais même pas si on va atteindre les 10 000 tonnes françaises de miel en 2017, tellement ça a été une année désastreuse aussi.
Oui, alors beaucoup pour des raisons météo.
Bien sûr. Ouais,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'on voulait évoquer une autre cause de ce manque de production
alimentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va changer dans les champs de grandes cultures des tournesols et des colzas,
un trou.
C'est pas grave, je vous ai
Oui. Effectivement, la baisse de production de miel. Elle est liée à plusieurs facteurs, mais dont un qui est la sélection de semences de grandes cultures mellifères, donc comme le colza, le tournesol, qui il y a une quarantaine d'années était très 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 productrice de nectar. Donc il n'était pas rare d'avoir 100 kilos de miel par ruche, de miel de tournesol, de miel de colza.
On a changé les variétés.
Voilà. Et donc on a maintenant des variétés qui produisent beaucoup moins de nectar, donc forcément au bout du compte, on a moins de production.
Éric Tourneret, moi j'ai envie d'avoir encore du rêve avec ces merveilleuses abeilles. Quel est le moment que vous aimez? Alors il y en a peut-être plein. Est-ce que c'est le moment de l'essaimage? Est-ce que c'est le moment, le vol du bourdon, ça on a compris tout à l'heure, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui vous épate vous encore? Parce que vous avez des qualités de photos, je ne sais pas comment vous faites.
Moi c'est la douceur des abeilles quand vous ouvrez une ruche. C'est un moment magique, si vous êtes très calme, si vous laissez la ruche se calmer, vous n'êtes pas du tout intrusif, il se passe toujours quelque chose. Et ces abeilles qui se touchent, qui rentrent constamment en communication avec leurs antennes, au niveau du toucher, au niveau olfactif aussi, y a une harmonie qui est présente. Et moi, c'est personnellement ça qui me touche, cette grande harmonie. Et toutes ces connaissances aujourd'hui mettent en avant l'intelligence de la nature, la pérennité d'une espèce, ces abeilles, qui aujourd'hui sont dites domestiques, mais qui étaient endémiques de la France et qui étaient des insectes sauvages. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont
Le rôle des pollinisateurs sauvages, des abeilles sauvages, est extrêmement important. On parle bien de celle-là qui nous produit du miel, mais je veux dire que c'est toutes les autres qui pollinisent aussi énormément.
Oui, mais cette espèce, Apis mellifera, l'abeille, au départ, il y a 50 ans, était une abeille qui vivait encore à l'état sauvage dans nos campagnes. Donc ça me touche beaucoup, cette harmonie, en fin de compte. On touche l'intelligence de la nature à une espèce qui a 100 millions d'années et qui est là, et la vraie intelligence, c'est peut-être la pérennité de l'espèce. C'est une espèce qui, en fin de compte, utilise l'énergie solaire captée par les fleurs pour se nourrir et qui ne produit pas de déchets.
Ça, c'est important.
Elle fait aucun déchet. Elle produit de la chaleur, elle produit de l'énergie,
aussi.
Mais elle ne produit pas de déchets.
Elle produit pas de déchets.
Avec 100 millions d'années, donc c'est vraiment, pour moi, le sommet d'une intelligence.
Au compteur, parce qu'on a retrouvé des traces dans de l'ambre aussi d'abeilles il y a à peu près 100 millions d'années. Le génie des abeilles aux éditions Ozoni, un livre absolument super. Merci aussi à vous, Claire Beauvais. Stéphane Boja, Théo Gomer était à la technique. Camille Blanès, notre assistant. Xavier Pestugia a réalisé l'émission. Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, j'en ai à Verdun. Et oui, l'autre sujet, donc entre la biodiversité de la forêt et donc Verdun, parce que ce sera donc un samedi 11 novembre. Je vous signale que tous les samedis à 20h, si par hasard vous avez Ushuaïa Télé, voilà, Ushuaïa Télé, c'est sur la TNT, eh ben, je vous y retrouve pour présenter un magazine d'environnement. Il y a aussi notre ami Frédéric Danré. Et donc, ce soir, ce sera sur les arbres avec Éric de Kermel. C'est tous les samedis sur Ushuaïa Télé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.